Nous accueillons aujourd'hui M. Cengiz Aktar, qui est docteur en épistémologie économique et qui est depuis 1984 administrateur aux Nations Unies. Il a réalisé différentes missions, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Ouest, en Europe centrale et au Moyen-Orient. Il est spécialiste des questions de justice, affaires intérieures et de l'élargissement de l'Union européenne. Quant à ses publications, il est membre de plusieurs comités de rédaction, en particulier de la revue du MOS, qui est publiée par les éditions La Découverte. Et il collabore à de nombreuses revues en France et en Turquie. Il a par ailleurs publié un livre en français qui s'intitule « L'occidentalisation de la Turquie » et qui est paru chez l'Harmattan en 1986. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole.
Eh bien, bonsoir. Je pense que ce soir, une question fondamentale occupe les esprits. C'est celle de comprendre la logique même de la candidature de la Turquie à devenir un jour membre à part entière de l'Union européenne. Assurément, la candidature de la Turquie n'a pas la même signification que celle, par exemple, de la Bulgarie ou de la Lettonie. À peine évoquée, elle soulève les interrogations, provoque le débat, souvent passionnel, jamais indifférent, comme cela peut être le cas pour d'autres candidatures, et pour cause. Car la Turquie, on en a entendu parler, elle signifie quelque chose, elle évoque un souvenir, une mémoire, une image, une expression, une mélodie. Décidément, sa relation avec l'Europe ne date pas du jour où l'on a arrêté le principe de sa vocation à devenir membre à part entière de l'Union. Cependant, la candidature de la Turquie à l'Union européenne reste un immense chantier qui implique et interpelle chacun de nous, ici comme là-bas. Le défi qui est lancé à la Turquie pour satisfaire les critères de l'adhésion n'a d'égal que le défi que l'Europe occidentale s'est lancé en acceptant la candidature d'un pays à la fois si proche et si éloigné. Mais le jour où l'on arrivera à relever ces défis, tels que la décision des gouvernements des 15 pays membres de l'Union semblait en faire le pari, ça servira, je pense, les intérêts des uns et des autres. La Turquie en Europe, physiquement parlant, est liée depuis 1352, date à laquelle les Ottomans ont conquis Gallipolis sur la rive européenne des Dardanelles. Presque six siècles plus tard, en 1915, pendant la Grande Guerre, c'est à ce même endroit que l'Empire ottoman tentait de sauver son existence après avoir progressivement perdu ce qu'il avait conquis depuis 1352 sur le continent européen. Historiquement parlant, les relations entre la Turquie et l'Europe, c'est presque 1000 ans de fascination mutuelle, difficilement réductible à sa seule expression guerrière. Certes composé de conquêtes et de reconquêtes, ce relationnel est aussi celui de l'Europe avec un empire ottoman autant étendard de l'islam que héritier et continuateur de Byzance. Empire cosmopolite et prémoderne, aux antipodes du britannique et du français, celui-ci est un facteur de stabilité, le fameux Pax Ottomanica, qui compte et avec lequel on compose et pactise. L'Empire ottoman, durant six siècles d'existence, fait partie du concert et de l'imaginaire occidental, de Machiavel à Montesquieu, de François Ier à Louis XIV, entre autres. Avec les Lumières, le contenu du relationnel commence à changer. D'abord, les Ottomans ignorent la Renaissance et accumulent des retards considérables sur leurs adversaires, tant du point de vue technique que politique. Ensuite et surtout, l'image médiévale de l'Ottoman subit une altération radicale qui reste encore valable aujourd'hui. Dans la mémoire collective européenne, retravaillée par les Lumières, il ne reste de l'image médiévale de l'Ottoman, que l'on appelait d'ailleurs le Turc, malgré l'incongruité historique de l'adjectif national, que sa caractéristique de conquérant hérétique, car musulman, à laquelle vient s'ajouter plus tard, au XVIIIe, la personnification du joug impérial, ennemi juré des nations libres. Lourd à porter, ces attributs signifient dès lors le corps étranger à l'Europe. Métaphore qui se mue en politique officielle, consistant à le repousser dehors dès que celui-ci montre des signes de faiblesse à partir de la fin du XVIIe. Le reflux ottoman qui débute ainsi dans les terres conquises de l'Europe des Balkans n'est pourtant pas le commencement d'une rupture. La retraite militaire est ici synonyme de fascination devant le savoir-faire de l'Occident, ignoré jusque-là, et qui devient par ce biais l'autre de l'ottoman et le reste jusqu'à aujourd'hui. De fait, le mouvement physique est suivi dans les esprits des Ottomans d'un intérêt tout nouveau pour l'Europe et correspond à ce que j'appellerais le processus d'occidentalisation. Ainsi s'ouvre une nouvelle ère de relations à la suite de l'ère des conquêtes et qui continue encore aujourd'hui. Cette occidentalisation est volontaire. Elle est auto-imposée et se fait avec les moyens domestiques. Elle constitue la principale dynamique, de loin déterminante, le long des trois derniers siècles dans l'ère géographique auquel nous nous intéressons ce soir. C'est dans ce processus que se trouvent inscrits tous les succès, mais aussi toutes les lacunes de la modernité turque, ainsi qu'une grande partie de la sémiologie des relations Europe-Turquie, les idées reçues, les partis pris, les images d'Épinal, les rancœurs et les raideurs qui demandent à être dépassés aujourd'hui par l'acte fondateur, cette décision historique à mon sens, qui proclamait il y a presque un an la possibilité pour la Turquie de se joindre en temps utile à la famille européenne. Les mouvements pendulaires qui caractérisent les relations Europe-Turquie depuis plusieurs siècles ont probablement trouvé dans la décision d'Helsinki l'ébauche d'une nouvelle ère durant laquelle les intérêts l'emporteront sur les passions. La Turquie parachèvera sa modernité pour l'heure largement en deçà des normes et pratiques européennes, apprendra à vivre sans voir des ennemis partout, réussira à se réconcilier avec elle-même, avec sa mémoire, sa différence, son passé qu'elle a dû nier pour ressembler à l'Occident à mesure qu'elle se sentira chez elle en Europe. Et finalement, l'Europe tendra davantage vers cet ensemble politique souhaité à l'échelle planétaire en composant avec l'une des figures antédiluviennes de l'autre. Ce processus, auquel je tenterai d'apporter un nouvel éclairage en appelant l'histoire à la rescousse, est un processus éminemment politique au sens noble du terme. Commençons par l'évidente difficulté. Et commençons donc par interroger l'aptitude de la Turquie à satisfaire les normes et critères de l'adhésion à l'Union européenne. Quatre domaines retiennent l'attention de l'observateur, où les difficultés structurelles demanderont la mobilisation d'importantes ressources matérielles et humaines, ainsi que beaucoup, beaucoup de courage politique. Ces quatre domaines, à leur tour, explique nombre de déséquilibres économiques et sociaux dont vous avez un aperçu dans la main. Il s'agit de la politique sociale, de l'agriculture, de la décentralisation et de tout ce qui relève des questions de démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit. Dans les autres domaines, ou encore, pour reprendre la terminologie bruxelloise, les autres chapitres de l'acquis communautaire, c'est-à-dire l'ensemble de textes législatifs et de règlements valables dans l'ensemble des pays de l'Union, ainsi que le critère économique de Copenhague, la Turquie me semble pouvoir s'en sortir avec moins de difficultés. Pour trois raisons. D'abord, l'accord de l'Union douanière a permis de tester depuis 1996 la capacité d'adaptation du pays ainsi que ses facultés à s'aligner sur la législation et la pratique communautaire en la matière. Aujourd'hui, la Turquie et l'Union ont pour une large part réalisé l'union douanière. En second lieu, Le pays s'est engagé avec le Fonds monétaire international, d'ailleurs au même moment que la décision d'Helsinki, dans un programme de régulation économique qui va durer 3 ans. Le bilan de la première année est considéré comme satisfaisant et il est prévu qu'à la fin de cette période de consolidation, l'inflation, la fameuse inflation, passera sous la barre des 10% et le déficit du secteur public ne dépassera pas les 3% du PNB. Ceci correspond d'ailleurs à l'un des 3 critères de Maastricht concernant la monnaie unique, c'est-à-dire l'euro. Enfin et surtout, il existe un large consensus à l'échelle nationale quant à la nécessité de se conformer aux normes et pratiques communautaires en rapport avec la vie de tous les jours, allant de la politique de l'emploi à la sécurité sur le lieu de travail, des télécommunications à la protection de l'environnement, du transport routier à la pêche en mer, du contrôle financier à la protection du consommateur. L'harmonisation avec les normes et pratiques communautaires correspond au désir de normalisation dans ce pays où l'anarchie est la règle dans ces domaines. Je reviendrai sur ce point lorsque je traiterai des mobiles des citoyens turcs à vouloir devenir européens à part entière. Revenons donc sur ces 4 domaines où l'harmonisation avec les critères européens risque de prendre beaucoup plus de temps que pour le reste. L'harmonisation en matière de politique sociale, ou encore toutes les questions relatives à la couverture sociale des citoyens et des salariés, demandera une mobilisation importante des ressources dans un pays où 27% de la population, en majorité rurale, et sans couverture sociale aucune, et où les allocations familiales et le RMI n'existent pas, tandis que l'assurance chômage vient à peine d'être instituée. Le secteur agricole constitue un problème colossal à lui seul. C'est un secteur archaïque qui emploie une pléthore de gens à faible productivité. À titre comparatif, la contribution du secteur agricole en France au produit intérieur brut est de l'ordre de 54 milliards d'euros et celui de la Turquie, 34 milliards. Ce chiffre correspond en France à 3,2% du PIB et en Turquie à 15%. Cette valeur est produite en France par 900 000 travailleurs agricoles, alors qu'en Turquie, ils sont 10 fois plus à produire bien moins. Pire, ces 9 millions de travailleurs agricoles correspondent à plus de 40% de la population active. Ces chiffres sont tellement éloquents que l'on peut se passer de tout commentaire à leur sujet. Ce secteur constitue bien évidemment un terrain idéal pour le clientélisme politique, avec en bonus un tissu social prémoderne qui va de la structure féodale au conservatisme classique des économies paysannes autarciques. Le troisième point, c'est la décentralisation administrative et toutes les activités qui entrent dans le cadre des politiques régionales, qui restent des questions à peine effleurées en Turquie. La forte tradition de centralisme administratif, qui va de pair avec la réticence légendaire de l'État devant toute initiative d'origine sociale ou périphérique, ont fait que la Turquie est restée très en deçà des pratiques européennes en matière de dévolution. Et quatrièmement, les questions politiques. À l'heure actuelle, la Turquie est le seul pays parmi les 13 candidats à l'Union européenne avec lequel aucune négociation n'est engagée en vue de l'adhésion. La raison en est que la Turquie ne satisfait pas, à la différence des 12 autres candidats, le critère politique de Copenhague, en vertu duquel le pays candidat doit avoir créé des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, le respect des droits de l'homme et le respect ainsi que la protection des minorités. Décidé par les pays membres de l'Union en 1993 à l'intention des pays candidats ex-communistes de l'autre Europe, les critères de Copenhague et en particulier le critère politique n'a pas pu être rempli par la Turquie qui pourtant se trouve depuis 1945 dans le camp de la démocratie et pratique depuis 1949 une démocratie parlementaire. Telle situation interpelle et demande éclaircissement. La réponse est donnée dans le long processus d'occidentalisation de l'Empire ottoman et dans l'émergence conséquente d'une Turquie républicaine dont les fondements relèvent d'une conception très particulière de la modernité, née dans un environnement historique tout aussi particulier. Trois constantes émergent de cet environnement historique qui mène à l'invention de la Turquie. L'occidentalisation dans l'Empire ottoman, qui débute à la fin du XVIIe siècle, privilégie une seule cause, celle d'assurer la pérennité de l'État. La transformation du corps social a toujours été d'importance moindre et s'est concrétisée sous forme d'effets secondaires des réformes qui touchaient d'abord l'appareil d'État. Les élites réformatrices de la période républicaine, tout comme celles de la période ottomane, ont été avant tout les serviteurs zélés de la cause étatique. En Turquie, l'État a priorité sur le reste, l'individu et la société. Ensuite, la Grande Guerre qui sonne le glas de l'Empire ottoman est suivie de l'occupation, en vertu du traité de Sèvres signé en 1920, d'importantes parts de la Turquie actuelle. Le rétrécissement territorial est à son apogée et l'État dans une situation critique. C'est la composante militaire de l'élite républicaine, largement dominante, qui sauve l'État et se dote ainsi d'une légitimité solidement appuyée, en particulier par les populations déplacées des Balkans suite aux pertes territoriales. L'obsession de l'intégrité et de la sécurité du territoire sont les corollaires du traumatisme de 1920 et constituent la trame fondamentale de la légitimité de la bureaucratie militaire qui perdure encore aujourd'hui. Renforcée par l'obsession de l'ordre hérité de la période ottomane, qui considère tout conflit, quelle que soit son origine, comme un danger potentiel, cette légitimité est une constante transhistorique de la République de Turquie. Par contre, cette République-là manque à sa création de lieu de légitimation populaire solide. Et c'est la troisième caractéristique de l'environnement dans lequel la Turquie est édifiée. À la création de la République, le relais social indispensable, partout d'ailleurs, à cette forme de gouvernement n'existe pas vraiment. Le magma social des années 20 en Turquie, 1920, est composé davantage de communautés que d'une société d'individus désireux de produire et de s'enrichir. Le pari modernisant de l'élite républicaine passe par une refonte sociale dans laquelle l'islam n'a pas sa place. Ainsi, l'islam, malgré sa riche variété, devient la cible d'un certain volontarisme laïcisant de la part de l'élite républicaine qui veut créer son propre lieu de légitimation, mais finit par happer et en fait par étatiser la religion alors qu'il fallait la séparer tout simplement des affaires d'ici-bas. La sécularisation radicale mise en place par les élites républicaines ne fait aucune différence entre les diverses composantes de l'islam anatolien. Fait table rase, oblige la religion à se taire et finit par couper ses dynamiques évolutives. L'islam en Turquie d'aujourd'hui reste une parole largement frustre et statique. D'autre part, toujours concernant le manque de relais social à la nouvelle forme de gouvernement. Il est permis de penser que l'annihilation de la composante arménienne et le départ forcé, suite à l'échange de populations entre la Grèce et la Turquie, de la composante grecque de la bourgeoisie anatolienne, soit pour quelque chose dans le vide qui caractérise le lieu de légitimation sociale à la création de la République. Même si la bourgeoisie arménienne penchait davantage pour une solution nationale, coupant court à toute solution fédérale comme forme de substitution à l'Empire. Justement, le relais national, parlons-en. La nation turque figure cet autre lieu dans lequel la République se cherche une légitimité. Tandis que l'élite ottomane s'évertue pendant 2 siècles à colmater les brèches ouvertes par l'esprit révolutionnaire de 1789, relayée par les revendications nationales, et s'épuise à garder cet empire cosmopolite intact, l'élite républicaine, avec un réalisme évident, accepte la défaite devant la poussée inexorable de l'idée nationale qui sévit en Europe. Nombre d'historiens notent d'ailleurs que le nationalisme turc est l'ultime nationalisme issu de l'Empire ottoman. Il s'agit en effet d'un nationalisme défensif qui se pose en réaction au nationalisme ethnique qui font rage dans l'Empire. Celui-ci porte d'ailleurs les traces du cosmopolitisme ottoman et constitue une parfaite illustration de la nation élective d'ascendance et d'inspiration française, à l'opposé de la théorie ethnique de la nation d'inspiration plutôt germanique. La nation élective est universaliste et non particulariste. Par conséquent, elle cherche perpétuellement le consensus et l'adhésion, le plébiscite de tous les jours d'Ernest Renan avec des drapeaux partout. Le nationalisme turc est d'autant plus électif qu'il ne peut se prévaloir d'une particularité ethnique qui reste introuvable, mis à part une langue non codifiée et acculturée. Je parle de 1920, évidemment. En effet, les 13 millions d'habitants de la Turquie de 1927 n'ont non seulement aucune conscience nationale, mais sont d'origine ethnique très variée, à l'image du cosmopolitisme impérial et en conséquence de l'immigration de musulmans non turcs en provenance des Balkans et du Caucase durant tout le long du XIXe siècle, suite aux pertes territoriales à l'ouest et la poussée russe à l'est. Et donc turc, celui qui se dit turc. Le point problématique dans ce tableau reste le fait qu'au départ, la définition du national est exclusive des non-musulmans. La particularité religieuse, bien que bannie par les républicains, cette particularité, marque néanmoins de son sceau la définition originelle de la nation turque. Avec le temps, pourtant, cette exclusion tend à disparaître à l'égard des non-musulmans, mais l'on continue obstinément à faire abstraction des musulmans non-turcs, c'est-à-dire kurdes ou autres. Il faut reconnaître que les non-musulmans, de par leur nombre, sont réellement minoritaires, tandis que les Kurdes, qui refusent d'ailleurs l'adjectif minoritaire, se comptent par millions, même si tous ne se réclament pas de cette identité. Aujourd'hui, en Turquie, il ne se pose pas tellement de problème à se présenter comme un Turc d'origine juive, mais il reste difficile de se présenter comme un Turc d'origine kurde lorsqu'on a affaire au pouvoir public. Ici, la référence idéologique est la définition universaliste au nom de laquelle la nationalité turque se veut fédératrice et supranationale. C'est précisément à ce niveau-là que les problèmes dont vous avez sûrement entendu parler font surface. Car l'identité nationale turque est incapable aujourd'hui de se poser réellement en identité supranationale et tend systématiquement à confondre la nationalité citoyenne avec une définition particulariste et ethnique de la turquicité qui serait apparue au bout de 77 ans d'existence de l'État-nation. Comme vous voyez, nous avons d'ores et déjà attaqué les grandes interrogations qui sont aussi celles des institutions européennes dans leur volonté de comprendre les blocages qui caractérisent la Turquie d'aujourd'hui. Un État omniprésent, omnipotent et omniscient qui tente de créer une société moderne ainsi qu'une nation moderne selon ses canons, c'est-à-dire harmonieuse et ordonnée, cet État devient l'agent exclusif du processus de modernisation, car incapable de concevoir une distinction entre la modernité comme dynamique sociale et la modernité comme contrôle du social. Eh bien, cet État, aujourd'hui, est à bout de souffle dans son entreprise modernisatrice. Son projet de société est arrivé au terme de sa logique et reste en deçà des aspirations sociales, tout comme des normes et critères européens. La dynamique nécessaire à débloquer cette situation, je crois que c'est très important, ne se trouve pas dans la classe politique, ni au sein de la société, dont le pouvoir n'est pas à la hauteur, malheureusement, de sa volonté de changement, de normalité et de démocratie. Et c'est exactement là où la dynamique induite par la candidature de l'Union européenne entre en jeu. Dans le passage en revue des difficultés de la Turquie, que la Turquie risque de rencontrer lors de la phase préparatoire à l'Union européenne, j'ai omis par choix de mentionner les déséquilibres macroéconomiques, les disparités de revenus et de niveaux de vie sur le plan national et entre les régions. Ces informations importantes pour la compréhension des problèmes figurent dans la note qui vous a été distribuée. Ces difficultés sont réelles. Certaines d'entre elles ne sont pas incontournables, car conjoncturelles. D'autres dépendent de la solution des quatre difficultés majeures et structurelles que je viens d'exposer. Quant aux questions relatives à la politique extérieure de la Turquie, et en particulier ses fameux différends avec la Grèce, il me semble que la solution, ou mieux l'ébauche de toute solution, dépendra quasi exclusivement du climat de confiance mutuelle qui s'installera au fur et à mesure qu'avancera le processus d'adhésion à l'Union. Je voudrais ouvrir une parenthèse technique à ce stade. À la question de savoir si la Turquie est apte à satisfaire les critères de l'Union pour y adhérer, il faudrait ajouter celle de savoir quand elle le pourrait. Il est évident que la réponse de cette question dépend très largement de la réponse à la première et que les difficultés structurelles que j'ai évoquées seront ardues et tenaces. Néanmoins, la conjoncture politique de l'heure en Turquie aura évidemment son impact dans le processus qui est engagé. Je voudrais dire que l'actuel gouvernement de coalition entre souverainistes de gauche et souverainistes de droite est loin de satisfaire les exigences de la candidature. En cela, le gouvernement subsume toutes les tares de la modernité turque que je viens d'évoquer, et ses réticences vis-à-vis de l'Europe sont les conséquences directes de la philosophie politique en faillite devant les exigences de la modernité de la société turque. Ce gouvernement est sorti des élections d'avril 1999 et tiendra vraisemblablement jusqu'aux prochaines élections en 2004, sauf accident de parcours. Ceci revient à dire qu'il ne faut pas attendre de grandes réalisations dans la très longue route qui mène à l'Union d'ici 2004. Un climat de confiance mutuelle, donc. Mais j'entends déjà les murmures, mais qu'est-ce qu'il faut de plus que la décision d'Helsinki des 15 d'accepter la candidature de la Turquie pour témoigner de la confiance? Il est tout à fait correct juste de dire que l'Europe a déjà beaucoup fait et que la balle est désormais dans le camp de la Turquie pour établir un nouveau code relationnel. Le problème, c'est que pour établir un nouveau code de relation, il faut être au moins deux. J'estime pour ma part qu'il va falloir beaucoup d'imagination, de tact et de créativité afin de remplir le contenu de l'acte fondateur d'Helsinki. Décembre dernier, les dirigeants, je dis bien les dirigeants des 15, ont pris une décision courageuse et se sont dotés d'une politique turque, et ce, pour la première fois depuis la fin de la Grande Guerre, c'est-à-dire la date à laquelle la Turquie est évincée de l'Europe. Cette décision n'a pas l'aval des opinions publiques européennes, et c'est un secret de Polichinelle. La Turquie n'est pas accueillie en Europe de la même façon que la Bulgarie ou la Pologne. Et l'on ne pourra pas établir une relation saine, encore moins un climat de confiance, sans que les gens ne soient un tant soit peu convaincus de l'intérêt de l'élargissement de l'Union vers la Turquie. Pour autant, ce nouveau code relationnel ne se mettra pas en place du jour au lendemain. Il existe trop de tabous, de peurs et d'idées reçues d'un côté comme de l'autre, qui viennent s'ajouter ou directement s'alimenter d'ailleurs des problèmes structurels que je viens de passer en revue. Je me proposerai néanmoins de commencer dès maintenant à questionner deux ou trois de ces idées reçues. Et puisque je m'adresse à un public occidental, je vous proposerai des idées reçues de ce côté-ci de l'Evros, c'est-à-dire la rivière qui sépare la Grèce, c'est-à-dire l'Union, et la Turquie. Prenons l'identité musulmane de ce pays, vaste domaine dont je ne prétends aucunement être spécialiste. Mes observations sont plutôt d'ordre sociologique. D'abord, la Turquie, comme je disais, est un pays laïque, dans lequel il n'existe pas officiellement de religion d'État. Ensuite, de quel islam parle-t-on ? Comme pour les deux autres religions monothéistes, l'islam offre une riche variété d'interprétations de la doctrine originelle, à tel point que nombre d'interprétations sont frappées du sceau de l'hérésie par les courants dominants selon les pays. En Turquie, la secte alévite, qui comprend 12 millions de personnes, c'est-à-dire un cinquième de la population, est l'expression d'un islam libéral qui échappe totalement à l'image que l'on a ici de l'islam. Largement ignoré par la secte sunnite majoritaire, mais aussi par les pouvoirs publics dont la préférence va à cette dernière malgré leurs prétentions laïques, la secte alévite est considérée par nombre d'observateurs comme un pilier du laïcisme en Turquie, bien davantage que l'islam étatisé que figure l'autre secte, c'est-à-dire la secte sunnite. En second lieu, quels sont le poids et l'impact de cet islam politique ? Il y a un islam politique en Turquie. Au vu des résultats électoraux, on peut dire que le parti politique, qui a dû changer d'ailleurs plusieurs fois de nom pour cause de bannissement, a réussi à canaliser les voix des laissés pour compte du libéralisme anarchique du début des années 80, surtout dans les centres urbains. D'obédience sunnite, cet islam politique conservateur et se situant plutôt à droite dans l'échiquier politique a obtenu ses meilleurs scores en 1995 avec 21% des voix et a vu son électorat fondre jusqu'à moins de 15% aux élections de 99. À des années-lumière de la dérision politique qui sévit en Afghanistan, Algérie ou Soudan, l'islam politique en Turquie joue le jeu démocratique et sous l'influence de ces jeunes députés essaye de se transformer en un parti conservateur à l'image de la démocratie chrétienne. De notre côté, l'analyse de la résurgence, d'ailleurs relativement récente, d'un islam politique ne devrait pas se limiter à une lecture fonctionnelle dans laquelle des politiciens mal intentionnés exploiteraient simplement le mécontentement populaire. Il existe au sein de ce mouvement une recherche identitaire qui fait de la religion le vecteur d'une expression sociale, y compris chez les femmes. Phénomène intéressant, les tenants de ce renouveau islamique se réclament autant que les libéraux de la démocratie parlementaire et de la démocratie au quotidien. Enfin, je voudrais partager avec vous un récent sondage d'opinion qui date du mois d'août dernier, un sondage comme il en existe partout et où l'on vous demande le problème social le plus important d'après vous. Eh bien, l'économie, l'inflation et le chômage arrivent en tête de 8 groupes de problèmes avec 39,7%, suivi de la corruption et du crime organisé avec 18%. Le radicalisme islamique, ou son danger, apparaît dans le bas du tableau avec 3,4% des réponses, suivi de la terreur séparatiste avec 2,5%. Une simple remarque sur ce sondage qui ne nécessite même pas de commentaire. Les citoyens turcs, comme beaucoup de gens dans le monde, aspirent aujourd'hui à devenir des consommateurs individualistes dans un environnement de droit et de justice sociale. Ceci nous amène peut-être à une autre idée reçue, celle-ci en rapport avec le fardeau économique de l'élargissement. en général ou pour la Turquie en particulier. Fardeau d'autant plus important que la Turquie apparaît, malgré l'existence de quelques 13 millions de consommateurs à fort pouvoir d'achat, comme un grand pays pauvre. Il faut savoir que la nouvelle vague d'élargissement de l'Union européenne, contrairement aux élargissements précédents, ne prévoit pas de larges subsides pour les nouveaux membres et que la libre circulation des personnes sera très vraisemblablement un chapitre sur lequel les nouveaux pays membres ne verront pas, même après adhésion, une liberté totale pour leurs travailleurs. Selon la Commission européenne, la libre circulation sera progressive. Quant aux subsides, on peut citer à titre d'illustration l'appropriation budgétaire maxima pour les nouveaux membres prévue pour l'an 2006. En 2006, on prévoit l'adhésion de 6 pays. Cette appropriation budgétaire est de 14,2 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter 3 milliards destinés aux préparations à l'adhésion pour les 7 candidats qui restent. Donc un total de 17,3 milliards qu'il faut comparer avec l'excédent commercial des 15 pays membres de l'Union en 1998, avec les 13 pays candidats uniquement, et qui remonte à 33,5 milliards d'euros. D'autre part, il faut noter que la nouvelle logique de l'élargissement consiste à responsabiliser financièrement le pays candidat dès le début de la phase préparatoire dite de préadhésion, et d'inciter ces pays, c'est-à-dire les pays candidats, mais aussi les pays membres et les institutions financières internationales à privilégier davantage le crédit et l'investissement direct aux dons sans retour. D'ailleurs, faut-il le rappeler, la Turquie a reçu de l'Union depuis 1963, date à laquelle elle a signé l'accord d'association dont vous avez copié un petit aperçu, 177 millions d'euros en somme et pour tout, donc en 36 ans, sous forme de dons. Enfin, il est important de savoir, toujours dans le chapitre du fardeau économique, que la machine économique turque est loin d'être la pire et le dynamisme des acteurs économiques, leur pragmatisme en affaires qui n'apparaît dans aucune statistique, et leur éthique de travail sont reconnus en France et dans l'ensemble de l'Europe. La France, d'ailleurs, notons-le, se situe en première place du stock d'investissement direct devant l'Allemagne fédérale avec 5,3 milliards d'euros. Et la Turquie réalise plus de la moitié de son commerce extérieur avec l'Union européenne, d'ores et déjà. Une troisième série d'arguments, car impossible d'y voir clair et d'en dégager des raisonnements solides, est celle qui est développée en sous-entendant l'argument religieux et l'argument du fardeau économique. On y retrouve le poids démographique de la Turquie, qui menacerait les équilibres au sein des institutions européennes et constituerait une menace génétique à la race. On y retrouve encore l'éternel argument géographique qui nous dit que la Turquie se trouve en Asie, mais le Caucase en Europe. On y retrouve en force l'argument massu du modèle de société radicalement différent, je cite, pour reprendre l'expression d'un dirigeant de l'opposition en France, qui serait celui des Turcs. On y retrouve enfin, et la liste n'est certes pas exhaustive, des arguments un peu plus raffinés, développé par d'anciens responsables politiques de premier ordre, qui voient dans la candidature de la Turquie une opération, voire un complot ourdi par les anglo-saxons, visant à diluer le projet politique de départ en laissant le champ libre à une Europe mercantile et à souiller ainsi l'identité politique européenne fondée sur des valeurs historiques et culturelles particulières. Projet et identité auquel la Turquie est bien entendu supposée être totalement étrangère. Une variante de cet argument, de sensibilité plutôt militaire, met en avant les affinités américaines de l'armée turque, sans questionner un instant le processus historique qui a fait que la Turquie s'est rapprochée des États-Unis dans la mesure où elle était systématiquement boudée en Europe, pour prévoir en cas d'adhésion une menace à l'Europe militaire en gestation. Selon cet argument, l'Europe continentale serait ainsi prise en sandwich entre les deux armées les plus atlantistes de l'Europe, la turque et l'anglaise, faisant pourtant déjà partie des structures de l'OTAN, bien sûr. Certains de ces arguments sont passionnels, d'autres ouvertement farfelus. Mais ils peuvent parfaitement suffire à travailler une opinion publique déjà suspicieuse et prête à être convaincue. Le poids démographique est évoqué comme une donnée absolue, par exemple, alors qu'elle est en perpétuelle évolution, et en l'occurrence, la croissance démographique est en net ralentissement depuis 1985. La population est ici considérée d'emblée hostile, alors que 4 des 65 millions de Turcs vivent en Europe occidentale de façon de plus en plus harmonieuse et s'intègrent à la vie de leur société d'accueil à mesure que les générations d'immigrants se succèdent. Le poids d'une Turquie membre à part entière est monté en épouvantail, comme si sa présence future dans diverses institutions de l'Union allait être monolithique. Quant à l'argument géographique, il suit de près la distribution religieuse, tandis que le modèle de société, tout comme les valeurs historiques, semble varier selon le pays où l'on se trouve, et chacun a dans sa poche, évidemment, sa définition de l'historique et du culturel. Pour certains Hongrois, par exemple, les Roumains ne sont pas européens. Pour certains Croates, ce sont les Serbes et les Bosniaques qui devraient être exclus de la définition. Pour certains méridionaux, les Scandinaves ne sont pas vraiment européens. Pensez à Luigi Barzini, ce fameux journaliste dans les années 70, ainsi de suite. Le complot anglo-saxon, qui paraît l'argument, à mon avis, le plus travaillé, renvoie en fait au débat très actuel sur l'Europe politique de demain. Un des vecteurs importants du projet européen est cette vision politique qui reconnaît les particularités et les différences, assure les conditions de leur libre expression, tout en les coulant dans le moule de valeurs communes, mais non particularistes, et dépasse ainsi les limites auto-imposées d'une identité quasi exclusivement fournie par la religion ou faisant sans cesse référence à un universel laïque mais abstrait. On peut avancer que cette Europe, en tant que modèle universel, reconnaîtra toutes les différences, y compris religieuses, mais n'en privilégiera aucune. C'est là où se trouve, je pense, l'enjeu qui consiste à pouvoir tenir tête, par exemple, à l'hégémonie culturelle américaine, en défendant une identité culturelle plurielle, déjà en gestation en Europe, comme le souligne Umberto Eco. Ceci m'amène à partager avec vous quelques observations in fine sur le sens du cycle actuel d'élargissement de l'Union. La Commission, tout comme le Conseil et le Parlement, qualifie volontiers le cycle actuel de l'élargissement comme une occasion historique. Il va de soi qu'à travers l'élargissement, les deux Europes se réconcilieront et l'on refermera la parenthèse ouverte à Yalta. L'intérêt stratégique de ce remembrement ne fait pas de doute et la décision d'y inclure la Turquie s'inscrit dans la même logique. Selon celle-ci, l'élargissement permettra dans les pays candidats, la consolidation des valeurs démocratiques et de l'économie de marché, mais avec ses garde-fous sociaux, ce qui constitue la meilleure garantie pour la stabilité et la sécurité de ces pays. Pour l'instant, pas tout à fait dans les normes. Et leur stabilité et leur sécurité sont considérées comme la meilleure garantie pour la paix, la sécurité et la stabilité du continent. La Turquie est conviée à ce projet stratégique où les intérêts des uns vont de pair avec les intérêts des autres. Pour autant, je pense que l'élargissement ne se résume pas dans sa seule dimension stratégique et préfigure la réalisation d'une Europe politique à vocation résolument mondiale, conformément au projet de départ, tel qu'imaginé par Monnet, Schuman et Adenauer. L'élargissement vers l'Est est l'instrument de ce projet politique universaliste, courageux et solidaire, qui invite à repenser la substance de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui. En cela, il existe un lien direct entre le débat actuel sur l'approfondissement et le débat actuel, toujours, sur l'élargissement. Au sein de cette nouvelle dynamique, la valeur ajoutée de la difficile candidature turque, qui cristallise tant d'images négatives et de craintes subconscientes, est justement donnée dans le dépassement de ces peurs et images à travers l'intégration de la figure par excellence de l'altérité, la tête de Turc, qui regroupe pêle-mêle le musulman, l'oriental et le barbare. Cette intégration est un défi. Il est celui qui pourrait finir par faire admettre la figure de l'autre dans l'imaginaire des uns et des autres. Sa réussite équivaudra à la réalisation de ce projet politique universel qui est l'Europe, le projet d'une commune présence, comme dirait René Char.
Monsieur Akhtar, je voudrais savoir, la Turquie est-elle prête de résoudre la question kurde qui reste comme une question essentielle? Et quels sont les projets de la Turquie pour résoudre ce problème? Merci.
Oh, vous savez sûrement mieux que moi que bon, ce qui est en train de se passer. Je crois que le défi pour la Turquie et pour la classe politique à l'heure actuelle est de pouvoir transformer en une solution durable ce qui a été, entre guillemets, gagné sur le terrain de la bataille. La solution de la question kurde est une solution, doit être une question, une solution politique, évidemment. Et je pense que la Turquie s'en approche. Ça fait partie des exigences, d'ailleurs, de la candidature à l'Union. Ce problème, maintenant, doit être résolu par des moyens pacifiques. Et je pense que les partis politiques, à l'heure actuelle, travaille dessus. Vous me direz, est-ce que la classe politique y est prête? Je dirais non, mais c'est un processus. Et je pense qu'on tend vers une solution politique et définitive de la question. C'est tout. Est-ce que vous voulez que je me dise?
Oui.
Bonjour.
Allez-y.
Ouais. Bonjour. Deux questions. Une première question, savez-vous à quelle époque le Turc a adopté le caractère latin?
Oui, 28.
Et puis, deuxième question, concernant les grands barrages pour canaliser les fleuves qui traversent la Turquie, quelle incidence sur sa relation avec ses voisins?
Ouh, ça c'est des questions techniques. Donc, pour l'alphabet, c'est 28. Et pour le barrage, donc ces énormes barrages sur l'Euphrate à l'est, malheureusement, toutes ces choses se passent sans grande consultation. Les uns accusent les autres. Je parle donc de l'Irak et de la Syrie surtout. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Et il est évident que la retenue d'eau aura évidemment une incidence sur l'eau que reçoit la Syrie. Je parle des eaux de l'Euphrate, franchement. Désolé.
Oui, si vous voulez poser des questions.
J'ai la mauvaise habitude de ne pas m'exprimer sur des sujets que je ne connais pas.
Voilà. Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire si le fait qu'il y ait une agriculture archaïque ici... Le fait qu'il y ait une agriculture archaïque,
oui.
Est-ce que ça ne pourrait pas être un atout, puisqu'on sait que le mode agricole dans les pays européens n'est pas toujours favorable à l'écologie? On nous en a parlé dans les conférences sur la chimie et la pollution des sols, de l'eau. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un pas moyen et entre les deux, entre le moderne, peut-être pas le, le meilleur modèle, et l'archaïque qui n'est pas encore terminé.
Vous savez, le modèle est archaïque, mais il n'est pas autosuffisant, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Donc il faut des subsides, et on vient d'ailleurs de couper les subsides, et le monde agricole turc est en ébullition. Il n'y a pas de solution financière prévue pour l'instant à cause justement du programme de stabilisation économique qui est en marche. Donc c'est l'œuf et la poule, hein, on ne s'en sort pas. Non, 9 millions de travailleurs agricoles et de paysans, c'est énorme. Je crois que c'est difficilement viable, franchement. Mais votre question, elle est très intéressante. Il faudrait qu'on commence à se poser ce genre de questions, je suis d'accord.
Oui.
Bonjour, monsieur. Vous avez dit qu'en 1920, la Turquie était très cosmopolite. Alors, aujourd'hui, il y a un problème kurde. On ne peut plus dire que la Turquie est cosmopolite. Il me semble que la cosmopolitité, si je puis dire, c'est un des critères d'européanisation. Comment on peut faire pour que la Turquie soit à nouveau cosmopolite, pour être simple?
Merci. C'est plus une affirmation qu'une question. Franchement, je ne sais pas comment. La Turquie est un pays suffisamment cosmopolite, à mon avis. Je voulais dire en reconnaissant les identités des uns et des autres. Ben, on y tend. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer, que ce processus est en marche et que dans l'Union européenne, enfin, c'est pas demain la veille, mais ce processus trouvera, à mon avis, de solides appuis.
Oui, allez-y. Pardon.
Je crois que le véritable péril pour l'Europe... si la Turquie rentrait dans l'Europe, c'est sa religion. Alors, vous me dites, elle est...
J'ai parlé que de ça.
C'est sa religion, j'en suis certain. Et oui, c'est-à-dire que vous dites évidemment qu'il y a une... Enfin, même les laïcs, je dirais, sont imprégnés d'islamisme, de même que chez nous, les laïcs, quoi qu'ils en disent, sont imprégnés de christianisme. L'identité de l'Europe, c'est l'identité chrétienne. Ah, tout à fait, malgré tous les libéraux, malgré tous les francs-maçons et tout ça. Et je sais bien une chose, je vais même vous dire une chose qui peut vous paraître bizarre.
Merci, c'est que... merci. Non. Question suivante, s'il vous plaît.
Vas-y. Pardon.
Allez-y.
Excusez-moi. Moi, je voulais juste rebondir à...
S'il vous plaît.
Une des questions...
S'il vous plaît.
Excusez-moi. Je rebondis juste.
Allez-y.
Je rebondis juste à une des questions qui viennent vous être posées. Moi, si j'ai bien compris votre très brillant exposé, vous prenez l'intégration de la Russie dans l'Union européenne au nom de l'intégration de l'altérité. L'altérité au sein de cette Union européenne. Or, le principal problème logique que vous soulevez dans votre démonstration, c'est que la Turquie elle-même, manifestement, elle n'a pas intégré cette idée d'altérité avec le problème turc, justement. C'est la principale incohérence logique qui me semble relever dans votre...
Mais je pense que... Je pense que la solution sera une solution simultanée, synchronisée presque. Là, je pense que l'état actuel du problème kurde, l'état dans lequel se trouve la Turquie par rapport au problème kurde, est une émanation, comme j'ai essayé d'expliquer, de ses peurs, notamment de ses peurs en rapport avec le début du siècle, n'est-ce pas? C'est un phénomène, je dirais, quasi paranoïaque par rapport à ça. Vous savez, quand vous parlez avec les Turcs, ils vous diront, mais ils veulent nous diviser. Personne n'a rien contre les Kurdes en tant que tels, mais il y a cette peur irrationnelle qui, à mon avis, s'amenuisera. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer en disant la Turquie apprendra à vivre sans voir des ennemis partout. Parce qu'après tout, le traité de Sèvres, c'est quoi? Le traité de Sèvres a été rédigé par les Français et les Anglais. Hein. Imaginez donc un cas de figure où le pays, où les deux pays qui ont rédigé le traité de Sèvres vont s'associer avec le pays au sujet duquel on a rédigé le traité de Sèvres. On ne pourra plus s'amuser à dire vous êtes nos ennemis, vous voulez nous diviser, etc. Donc il va falloir trouver un autre mode relationnel que j'ai essayé d'évoquer. Je pense que ça se complète. Il n'y a aucune contradiction logique, je pense. La solution, si vous voulez, de la question kurde viendra en partie de ce nouveau mode de relationnel, comme je l'appelle, entre la Turquie et l'Europe. À mesure que la Turquie se sentira à l'aise, il y aura plus de solutions, plus d'imagination pour la solution de la question kurde, je pense.
Oui, là-haut.
Toujours concernant la question kurde, vous avez dit tout à l'heure que la Turquie, la classe politique de la Turquie n'était pas prête à résoudre ce problème. Seulement, il est vrai qu'elle n'est pas prête. Je suis d'assez près l'actualité de la classe politique. Il me semble qu'en plus de n'être pas prête, elle n'est pas non plus très désireuse de vouloir de résoudre le problème.
Oui.
Or, le problème kurde peut aussi est également plus un problème de minorité. C'est un problème politique qui empêche véritablement la Turquie de dépasser ce problème de démocratisation. Alors,
j'ai cité ce sondage exprès pour parce que bon, en Turquie. On monte donc cette terreur séparatiste, hein, et puis bon, après tout, il apparaît comme en bas du tableau avec 2,4%. Les gens considèrent que ce n'est pas du tout un problème. Je pense que la société turque est tout à fait désireuse, d'ailleurs pour tout ce qui concerne la modernité. La société turque, en un mot, est bien en avant, est très en avance, si vous voulez, sur la classe politique. La classe politique, elle traîne derrière. La solution ne pourra pas venir, comme j'ai essayé d'expliquer, en tout cas de l'actuel gouvernement, composé de souverainistes de gauche et de droite, et ils ne pourront jamais résoudre ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté. La volonté, elle est là dans la société de résoudre cette question. J'en suis convaincu.
Ouais. Oui, allez-y. Oui, allez-y.
Pourquoi n'avez-vous pas du tout parlé de l'armée turque et du Conseil de sécurité qui est son émanation? À aucun moment vous avez parlé de ce sujet.
J'ai parlé de l'armée turque en long, en large et en travers. J'ai parlé de l'armée turque en parlant de la légitimité transhistorique de la bureaucratie militaire qui perdure encore aujourd'hui, évidemment. Bien sûr que j'en ai parlé. C'est même un des problèmes essentiels, enfin problème, c'est une des réalités essentielles de ce pays. Pourquoi c'est bloqué, n'est-ce pas?
Oui, allez-y. Parlez, ça marche.
J'ai eu l'occasion, en cours de voyage, d'admirer l'effort d'européanisation de la Turquie, mais il y a quand même un point qui me chagrine, c'est la réaction qui me paraît épidermique qu'ils ont eue quand le Parlement français a voté une motion concernant le génocide arménien.
Le Sénat.
Je pense qu'il y a un problème.
Oui, il y a un problème. Écoutez, je vous ai dit entre les lignes que je pense sincèrement, et c'est mon point de vue à moi, n'est-ce pas, que ces tabous vont tomber à mesure que la Turquie se sentira chez elle en Europe. C'est un tabou monumental en Turquie, ça. On a beaucoup, beaucoup de mal à en parler, et je pense personnellement que ce n'est pas une question d'ingénierie historique, n'est-ce pas? C'est-à-dire tant de chiffres là et tout, non, ce n'est pas ça. C'est une question d'éthique.
Bien. Oui, allez-y.
Je reviens à une question qui vous a été posée tout à l'heure et qui concerne les retenues d'eau. En Turquie. Vous avez dit que vous n'étiez pas expert, mais vous devez quand même avoir un aperçu sur la question. Alors même en tant que non-expert, est-ce que vous pouvez nous faire un descriptif de la situation, de manière à ce que nous comprenions un petit peu les stratégies d'ordre géopolitique de ce pays? Merci.
On dit que l'eau sera le pétrole du XXIe siècle, n'est-ce pas? Maintenant, concernant la Syrie, je ne pense pas que la Turquie voudrait créer une dépendance de la Syrie vis-à-vis de l'eau de l'Euphrate en particulier. Je répète, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un barrage du côté syrien qui a été construit par les soviétiques dans les années 60 ou 70, qui est du point de vue de la technique, donc de l'énergie hydraulique, un désastre. C'est-à-dire, ça a été construit avec la technologie obsolète, n'est-ce pas, et qui cause énormément de pertes d'eau. C'est une espèce de lac, en fait. Ils ont construit un énorme lac. Franchement, je ne peux pas en dire plus. Alors, question stratégique. C'est vrai que l'eau est un, du point de vue stratégique, si vous voulez, l'eau est une arme, entre guillemets, j'aime pas ce mot, dans les mains de la Turquie, c'est certain.
Oui. Oui.
Oui, bonjour. Ce serait au sujet des relations diplomatiques entre la Grèce et la Turquie, oui. Alors que la Grèce oppose un veto plus que ferme à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Comment est-ce qu'on envisage de faire cohabiter finalement un chien et un chat au sein de l'Union européenne?
C'est toujours la même chose. C'est comme pour la question arménienne. Moi, je pense que c'est un processus. Et tant que ce processus sera là et il n'y a pas de retour, je veux dire, l'Union européenne n'a pas rayé de la liste de la candidature aucun pays jusqu'à présent. Je pense que ce processus va continuer avec des hauts et des bas, c'est certain. Tant qu'on avancera, on tendra vers une solution, notamment sur Chypre, parce que les autres questions, c'est-à-dire la question du plateau continental, entre la Grèce et la Turquie, c'est une affaire beaucoup plus simple, à mon avis, à résoudre. Si la question chypriote peut avoir une solution qui puisse satisfaire les uns et les autres, et je dis bien les uns et les autres, la Turquie n'est pas seule dans cette affaire. Il y a les Turcs chypriotes, il y a les Grecs chypriotes, il y a la Grèce. Et je pense qu'on y arrivera. Vous savez, tous les murs tombent. Il faut que ce mur tombe aussi, si vous voulez. Puis, bon, les Grecs et les Turcs se ressemblent beaucoup plus qu'on ne le croit aussi. Vous savez, c'est pas...
Une dernière question. Allez-y.
Oui, allez-y. J'ai apprécié votre plaidoyer honnête et courageux, mais je pense que vous n'avez pas suffisamment insisté sur le péril islamique en Turquie. Il y a un parti islamique puissant, et il n'y a pas si longtemps, c'est une question de quelques années, vous aviez un Premier ministre qui était islamiste. Alors, s'agissant de l'Europe, ça peut amener à des réticences, parce que l'Europe que nous voulons, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas celle qui est extrémiste au point de vue religieux, et l'Europe que nous voulons, c'est avant tout une Europe homogène.
Oui, je pense sincèrement m'avoir je pense que j'en ai assez dit, franchement. Je pense que, et les Turcs avec moi d'ailleurs, que le danger islamique, enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît ici, de l'Algérie, par exemple, de l'Afghanistan, avec les talibans, etc. C'est le jour et la nuit. Bon, le Premier ministre en question, c'est vrai que c'était un zozo qui jouait, enfin, qui profitaient de la démocratie pour venir gouverner le pays. Mais le temps de ces gens-là est largement révolu, je pense. Comme je vous expliquais, ce parti politique est en train de se transformer. Il cherche par tous les moyens à entrer en contact avec les partis chrétiens-démocrates de l'Europe occidentale. Et ils essaient justement de profiter de leur expérience pour devenir un parti musulman-démocrate. Et c'est très important.
Je vous remercie.